searching for sound, looking for clues, waiting for news. Look high and low, wanting to know, where do I go? Digging, 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 digging.
Ce samedi, c'est le Disquaire Day, une journée consacrée aux disquaires indépendants. Ces boutiques qui vendent, vous savez, les disques, ces galettes de vinyle qui diffusaient bien avant les MP3 et qui continuent de diffuser nos musiques enregistrées préférées. Pour ce Disquaire Day, il y aura une mise en vente de vinyle en édition limitée. Parmi les disquaires qui participent à cette opération dans la région, quelques bonnes adresses, alors malheureusement plus rien à Arras, mais à Amiens, citons la Malle à Disques, à Lille, B-Sides Records, Minor Place ou encore Urban Music. Urban Music Lille, c'est le disquaire hip-hop de la région. On y trouve les classiques ou les nouveautés rap, mais aussi de la soul, du funk, de l'afrobeat, et puis aussi un peu de jazz et de rock. Derrière le comptoir du magasin, Pascal, alias DJ Pass, on parle avec lui de ce Disquaire Day, du retour ou non du vinyle, mais avant cela, on a voulu en savoir un peu plus sur son parcours et ce qu'il a amené à plonger dans les disques et la musique.
Mes grands frères étaient déjà collectionneurs de soul, donc forcément j'ai baigné là-dedans et comme tout le monde, vers 11-12 ans, je me suis intéressé plus à ce qui se passait à l'époque que ce qu'il y avait derrière. Donc forcément, moi, à mon époque, c'était l'électro-funk, c'était les années 80, quoi, 81, 82, c'est là vraiment que j'ai eu le déclic, mais beaucoup avec le rap old school d'époque. Quoi. J'avais un pote de mes grands frères qui était collectionneur, il n'achetait que du rap, et donc forcément, quand j'allais chez lui, c'était la caverne d'Ali Baba, bon, c'était vraiment les premiers morceaux de rap, quoi. Donc c'est ça qui m'a vraiment mis vraiment le pied à l'étrier au niveau du vinyle, quoi. À l'époque, soit écouter la radio, soit acheter du vinyle. Donc j'ai commencé à acheter le peu de vinyle que je pouvais avec le peu de moyens que j'avais. J'ai commencé ensuite à l'âge de 15 ans à faire des soirées dans les MJC, donc à but non lucratif, parce qu'à l'époque, ben, on pouvait pas être payé, c'était interdit. Et puis de toute façon, on voulait pas être payé, ce qu'on voulait simplement, c'était mettre le son qu'on aimait bien avec les gens forcément qui venaient et qui participaient comme nous à cette passion qui est qui était le rap et la black music en général à l'époque, quoi. Ensuite, de là, j'ai commencé à travailler, donc à voyager aussi un petit peu, avoir un peu de moyens, donc beaucoup l'Angleterre, enfin surtout l'Angleterre. Donc de là, j'ai commencé déjà à... Quand on faisait un voyage, les grands m'avaient toujours appris, tu prends 3 disques pour toi et 2 pour rentabiliser ton voyage. Donc à acheter pour revendre. Donc j'ai commencé à fournir un petit peu les radios telles que Radio Mons dans les années 86-87. Radio Mons ou RPL. De là, automatiquement, moi, j'ai commencé à faire mon émission de radio à RPL dans les années 88, où je jouais que de l'underground, rien d'autre, donc pas de commercial. Jusque 92 à peu près, où là, j'ai commencé à vraiment pas mal acheter, faire les braderies, vendre, et commencer à pas mal fournir aussi les disquaires du coin qui avaient du mal à s'approvisionner. Bah forcément, après, je suis devenu DJ, comme tout le monde, mais bon, sans être un DJ, c'est plutôt un passionné de musique et de vinyle, entre guillemets. De là, automatiquement, j'ai commencé à mixer dans pas mal de soirées, et puis bon, apparemment, j'avais quelque chose, donc j'ai continué. De là, j'ai quand même pas mal tourné dans des gros clubs, beaucoup en Belgique, un petit peu en Hollande, mais pas mal sur la région lilloise et on va dire la région belge. J'ai eu mon moment, on va dire, entre guillemets, de petite gloire locale. Et puis voilà, puis je continue toujours, hein, mais là aujourd'hui c'est vraiment pour le plaisir, quoi. Avant c'était pour le plaisir, mais forcément quand on mixe dans une boîte où il y a, ça m'est arrivé de mixer devant des 5000 personnes, forcément on peut pas jouer la même chose qu'on a envie de jouer. Tout en restant black quand même. Et donc voilà, mais bon, ma priorité absolue depuis les années 2000, c'est le magasin, quoi. Il n'y a que le magasin qui compte. Après, moi, j'ai eu pas mal de propositions pour aller mixer à droite à gauche, notamment à l'étranger, mais je pouvais pas laisser le magasin, c'était pas possible, quoi.
Alors j'imagine dans ces soirées, il y a quand même quelques bons moments que tu as passé. Est-ce que tu peux nous parler de soirées ou de rencontres qui t'ont particulièrement marqué dans cette période où toi, tu faisais vraiment le DJ presque à plein temps, quoi?
Ouais, bah des bons moments, j'en ai encore, hein, même plus maintenant qu'avant, on va dire. Quand on fait du grand public, forcément, on rencontre pas mal de vedettes, on va dire entre guillemets éphémères. Hein. Mais bon, c'est sûr que quand j'ai rencontré Gourou, par exemple, là, c'était déjà autre chose. Qui encore, bah, Q-Bert récemment, Muggs, les gens comme ça, c'est beaucoup plus de plaisir. J'ai aussi rencontré Sugar Hill Gang à l'époque, qu'ils étaient venus à l'aéronef en 96, j'ai encore l'affiche chez moi d'ailleurs. Et là, c'était un grand souvenir pour moi parce que même si Sugar Hill Gang, tout le monde connaît le Rapper's Delight et que c'est super commercial, faut pas oublier qu'à côté de ça, ils ont fait énormément de morceaux qui ne sont jamais été des tubes, mais qui sont des valeurs sûres. Donc franchement, quand j'ai rencontré et Grandmaster Melmels, à pas confondre avec Grandmaster Flash, et Sugar Hill Gang, là pour moi c'était vraiment la parce que c'était mes 14 ans, quoi, tout simplement. Donc là c'était un gros moment, et ça c'était en 96, ça c'est le plus grand moment que je retiens.
Toujours avec Pascal, gérant d'Urban Music à Lille. On parle avec lui de l'ouverture de cette boutique.
Moi, j'ai ouvert en 2001 ici, alors que Urban Music Paris, ça appartenait à Urban Music Paris à la base, donc était ouvert depuis 96. Donc Urban Music Paris était avant tout un magasin underground. Après, il y a eu le boom des DJ dans les années 2000-2001, quand nous, ici, on a ouvert. Donc comment c'est arrivé ? Ben, tout simplement, moi je travaillais pour un petit magasin à Lille avec une personne qui s'appelait Groove Music et une personne qui voulait pas aller de l'avant. Et donc moi j'étais allé à Paris, j'avais déjà un petit peu de connaissances, enfin je traînais déjà toutes les boutiques à l'époque, LTD et j'en passais des meilleurs. Et c'est vrai que le seul qui faisait du gros à Paris, c'était Urban Music via Basti Vinyl, qui était une firme qui appartenait à Urban Music et qui faisait du gros sur toute la France. À la base, c'était plutôt de la house, mais du coup, ils ont commencé à faire un petit peu le hip-hop, on va dire, a commencé vraiment à super bien marcher, le R&B également, donc tout le monde voulait DJ, les gens avaient vu les DJ faire des passe-passe sur Canal+, avec un certain DJ que je nommerai pas. Tout le monde, en gros, voulait deux Platine Technics, deux Heavy 8 et voulait faire un bordel en live, entre guillemets. Donc j'ai travaillé pour ce magasin là, mais la personne et moi, bon, on n'était pas sur la même grande onde. Moi à l'époque je vivotais avec ça et il me fallait vraiment une situation stable. Donc je lui ai dit soit on ouvre un magasin, soit moi je vais aller voir ailleurs parce que je vais essayer de ramener un gros. Donc à la base je me suis rapproché de US Import à Lille, mais c'est pareil, ils voulaient tout chapeauter, donc moi je voulais pas avoir quelqu'un au-dessus de moi qui décide ce que je voulais faire. Donc je suis allé voir Urban Music, et Urban Music, j'ai eu la chance de tomber sur le patron qui était vraiment un fonceur, un petit peu comme moi, et qui a dit « Banco, on va essayer quelques mois, je te donne des moyens, si jamais ça marche, on continue, si ça marche pas, on arrête tout simplement. » Donc voilà, je suis allé le démarcher, on a fait ça sur quelques mois, j'ai trouvé le local, il y avait déjà la clientèle, on avait les émissions de radio, on avait un petit peu tout, et puis je pense qu'aussi c'est une chose qu'il n'y avait pas, et puis bon, à l'époque Urban Music c'était quand même le plus gros nom en France, donc forcément quand on a ouvert il y a eu comme un raz-de-marée, quoi, donc tout simplement. Et bah, depuis le temps on a continué. Alors on s'est séparé en 2008. En 2008 le fondateur d'Urban Music a lui arrêté. Alors, à la base je travaillais pour lui et m'a revendu le magasin, et là on est redevenu depuis 2008 un magasin comme dans les années 1080, c'est-à-dire un magasin vraiment indépendant, avec vraiment comme moi je l'entends, avec mes moyens bien sûr, parce qu'on n'a pas, c'est plus la grande époque, donc j'ai pas des grands moyens, mais on essaie de continuer l'underground en hip-hop, l'underground en soul. On a banni tout ce qui était clubbing depuis belle lurette, donc on essaie de rester vraiment un magasin underground. Et surtout pour les passionnés, quoi. Pour les passionnés. C'est ce que j'essaie de faire depuis 2008, donc ça fait 5 ans maintenant. À savoir qu'il y a encore des gens qui arrivent et qui pensaient vraiment qu'on était encore un magasin de clubbing, encore un magasin où on vendait les hits du moment par centaines dans la semaine. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et encore aujourd'hui, j'ai des gens qui arrivent via les soirées que je fais dans les bars à Lille ou même dans les bars de la région ou les petites boîtes où on peut jouer plus ou moins underground. Et les gens sont étonnés, ils me disent « Ah, en fin de compte, tu joues ça, tu as ça au magasin ?» Alors moi, je pensais vraiment que c'était un magasin de clubbing. Donc c'est tout un travail qui a été fait depuis quelques années et qui est encore à faire, bien sûr, parce que de toute façon, aujourd'hui, on est dans un milieu, on est dans une niche, c'est vrai, mais on est aussi dans un milieu où c'est redevenu vraiment underground, on va dire, et un petit peu marginal. Donc aujourd'hui, on est revenu à un magasin vraiment pour les passionnés de musique et d'un, mais surtout pour les passionnés via les supports, donc le vinyle.
Justement, le vinyle, parlons-en, concurrencé par la cassette, puis par le CD, achevé par le MP3 et la consommation gratuite de musique sur Internet. Et pourtant, le vinyle est toujours vivant, objet de collection, chiné sur les brocantes et braderies, recherché dans les foires aux disques. Il paraît que le vinyle revient. Mais qu'en pense Pascal ?
Je pense qu'il y a eu un déclin à partir de 2005. Et c'est jamais remonté, faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, un disquaire comme moi, je vais pas dire qu'on survit, parce que j'ai la chance de pas survivre, mais c'est beaucoup de travail, c'est 5 fois plus de travail pour gagner 5 fois moins tout simplement. Mais en même temps, c'est une passion, moi ça me fait plaisir. Mais bon, oui, bien sûr, il y a le téléchargement, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une nouvelle génération qui ne sont pas des passionnés, qui ont d'autres moyens d'écouter de la musique. Et puis, bien sûr, Internet a foutu une merde phénoménale, quoi. Il faut dire ce qu'il est. Il faut appeler un chat un chat. Et dans beaucoup de domaines. Et puis, à mon avis, c'est pas fini, quoi. Mais c'est sûr que aujourd'hui, un retour du vinyle, soi-disant depuis quelque temps, bon, moi, j'ai pas vu de différence. Hein, c'est tombé d'un seul coup, notamment quand les logiciels de mix sont arrivés. Je veux dire, pour moi, je vois pas de remontée du vinyle. C'est faux, quoi.
Ah, peut-être aussi ce qu'on voit arriver maintenant aussi dans tes rayons, c'est pas mal de rééditions de vinyles qui étaient parus il y a 10-15 ans et qui reviennent réédités. Peut-être un mot, comment ça marche ce genre de réédition en fait
Non, mais simplement, comme toutes les musiques ont connu un âge d'or, donc le rap, c'est vrai qu'il y a eu un âge d'or dans les années 90 et aujourd'hui... C'est vrai que l'industrie, notamment les Américains, se sont bien rendus compte qu'il y avait une demande sur le rap, sur certains, sur ce qu'on appelle les classiques, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'on réédite à tout va, et c'est très très bien pour les gens qui n'ont pas eu à l'époque, parce que c'est vrai que c'est pas une population dans le rap et dans la black music en général qui vend ses disques facilement. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'albums qui ont beaucoup de valeur, notamment dans le rap français. Forcément, dès qu'il y a une réédition, ça n'altère pas la valeur de l'original, mais ça permet à beaucoup de gens d'avoir quand même cet album qui est refait avec soit un vinyle coloré, de pouvoir l'avoir aujourd'hui en 2013, et ça c'est plutôt pas mal. Le seul i que je dirais, c'est que comme ça marche bien, forcément les distributeurs s'en fait plaisir et puis les fabricants, donc ça veut dire que moi je trouve que ici sur les dernières années les disques américains notamment ont pris entre 6 et 10 dollars, quoi, sans problème. Donc ils savent qu'il y a une demande, donc ils en profitent pour augmenter un petit peu le prix, et tout ça au détriment du public, parce que avant on avait les major labels, on les touchait entre 17 et 20 euros. Aujourd'hui il n'y a rien en dessous de 25 euros, quoi. Donc c'est un petit peu dommageable parce que tout le monde en profite encore une fois. Et forcément, il y a des gens qui tiquent maintenant à acheter certains albums parce qu'ils estiment que c'est un petit peu trop cher, et à juste titre, de toute façon. Mais nous, les disquaires indépendants, ben, on est pris un petit peu au piège de ces fabrications et de cette distribution, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, et on est bien obligé de travailler avec les gros américains ou les gros européens. Donc on est un petit peu pris en otage, je dirais, voilà, c'est ça. Pour moi, le seul hic du moment, c'est bien, il y a plein de rééditions, il y a plein d'objets, ils nous foutent aussi des codes, ce qu'on appelle les codes, les downloads, où comme on achète le vinyle, on a un petit code à l'intérieur, ça c'est vrai que c'est bien, mais bon, où on peut télécharger gratuitement l'album sur Internet, ça c'est bien, mais... on le paye quand même, parce que pour moi c'est entre 5 et 7-8 euros trop cher actuellement les albums, quoi. Donc forcément quand on en vend un album à 20 euros et à 27 euros, Je pense qu'en baissant un peu le prix, on en vendrait beaucoup plus. Après, c'est mon avis.
Tu parlais de pressages originaux, notamment dans le rap français, qui valent cher. Alors peut-être, pour donner une idée, je sais pas, le premier album de NTM en vinyle, à combien il chiffre maintenant?
Ouais, je pense que 120 euros. 120 euros, c'est la cote actuelle, je pense. Mais il y a plus cher, il y a plus cher que NTM, parce que NTM, bon, c'est NTM, IAM, un écran du micro d'argent, c'est minimum 180 euros, on le voit jamais en dessous. Mais bon, après, c'est encore une fois, c'est marginal, parce qu'il n'y a pas eu des masses enfin, il n'y a pas eu des quantités énormes en vinyle, donc c'est aussi ça qui fait la rareté et le prix. Mais bon, malgré tout, c'est beaucoup trop cher, quoi, c'est beaucoup trop cher. Pour un vinyle, le vinyle devrait être accessible à tout le monde. Et je pense que si le vinyle n'était pas cher, beaucoup plus de gens, parce que le mot qui revient beaucoup actuellement chez les rares jeunes qui rentrent dans le magasin, c'est stylé. Mais c'est stylé, mais ils n'ont pas les moyens. Donc ça peut être stylé, mais par contre, quand on met un vinyle sur une platine qui sont là, ils regardent, c'est magnifique. Mais ils n'ont pas les moyens, je veux dire. Alors tout le monde veut du IAM, tout le monde veut du Gangstar, tout le monde veut du Pit Rock, tout le monde veut les meilleures choses, parce que c'est les meilleures choses, mais c'est pour les ministres, quoi. À part les gens comme moi qui ont acheté à l'époque, bon, il y en a beaucoup, qui ont acheté à l'époque à des prix normaux, mais aujourd'hui, je veux dire, quelqu'un qui veut se mettre aujourd'hui dans le vinyle, il faut quand même avoir quelques moyens qui sont quand même au-dessus de la moyenne actuellement, quoi.
Ça dépend des ministres, alors, parce qu'il paraît qu'il y en a qui sont pas si riches que ça, il paraît, quoi.
Ouais, c'est cela, oui.
On va parler de ce Discard Day. Alors toi, tu participes pour la première fois, il me semble, à cette opération. C'est une journée pour mettre en valeur vraiment les disquaires indépendants. Je pense que c'est pour ça que ça a été fait. Alors, en quoi ça consiste, et puis comment tu vois, toi, ce Discard Day?
Bah, c'est la deuxième fois que j'y participe, sauf que l'année passée, j'avais rien pris dans leur liste, parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. Cette année, j'ai pris un peu de produits qui n'ont rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais pour faire plaisir à quelques clients, on va dire, entre guillemets. Mais cette année, il y a un petit peu de black music quand même, donc je participe, oui. Maintenant, participer, ça ne veut pas dire qu'on va recevoir les disques qu'on a demandé, d'après ce que je viens de comprendre. Donc, on peut pas, c'est une très bonne initiative. C'est vrai que chaque année, il y a du monde qui vient voir le magasin. Donc, mais après, il faut dire ce qu'est. C'est surtout une clientèle qui aime la variété ou le rock. C'est pas une clientèle vraiment black music, parce qu'en black music, je veux pas dire que tout a été vu, tout a été fait, mais je veux dire, en France, on est encore à 10 millions de retard par rapport au Records Day black américain, où là, ils sortent plein de pépites, des 45 tours, des maxi, des petits coffrets, des petites versions inédites et compagnie. Nous, comme c'est pas notre culture, forcément, en Europe, on n'y est pas du tout, quoi. Mais au bout de la troisième année, on sent déjà qu'il y a un peu plus de références qui sortent. Mais pour arriver au Records Day black music américain, il faudra encore attendre une paire d'années, à mon avis. Mais bon, c'est déjà pas mal, il y a du progrès.
Dernière question aussi, c'est aussi une question de rapport humain, parce que c'est vrai que la manière de consommer de la musique sur Internet, on est tout seul face à un écran. Quand on vient dans une boutique, on discute, on rencontre d'autres clients, on peut discuter aussi avec le commerçant, c'est aussi un autre rapport aux gens, aux autres.
Ouais, mais de toute façon, les gens qui n'aimaient pas bouger, aujourd'hui, ils ne bougent plus du tout. J'ai quelques amis qui sont comme ça, ils font même leurs courses sur Internet. Donc, et c'est métro, boulot, dodo. Et puis, je pense aussi, surtout, c'est qu'à force de dire aux gens qu'il n'y a rien qui va, qu'on leur a foutu les boules, aujourd'hui, les gens, ils font attention à tout. C'est-à-dire que même pour un litre de gasoil, ils vont pas se déplacer, quoi. Ils préfèrent acheter sur Internet. Et ils estiment qu'en achetant sur Internet, c'est moins cher, alors que c'est pas toujours vrai. Et numéro 2, ils comprennent pas qu'ils privilégient. Bientôt on arrivera dans les centres-villes et puis on n'aura que des chaînes. C'est ce qui va arriver, malheureusement. Alors, c'est ce qui arrive déjà beaucoup. Avoir le nombre d'indépendants qui ferment, pas seulement les disquaires, mais depuis des années et des années, ça veut dire qu'on va être une voie, on va être des métiers en voie de disparition. C'est un petit peu malheureux. Après, il faut s'accrocher. Moi, j'ai la chance d'avoir une clientèle quand même qui est là, qui est fidèle. Et c'est vrai qu'avec l'apport, on est quand même dans une grande ville où il y a quand même pas mal de disquaires. Et c'est vrai que les gens qui viennent à Lille pour acheter du vinyle, ils ont quand même 6-7 magasins où ils peuvent faire le tour, on va dire passer la journée entre guillemets. Donc ça, c'est un plus pour une ville comme Lille. Mais toutes les villes, on va dire, de France n'ont pas cette chance-là. Et je pense que les gens à Lille, ils ont de la chance, ils ne s'en rendent pas compte. Mais ils ont vraiment beaucoup de chance, quoi. Parce que c'est une ville où ça a toujours été dynamique, il y a toujours eu un engouement pour le vinyle. Maintenant, à voir, qui vivra verra, comme on dira, à voir l'avenir. Mais bon, moi je serai toujours là, vous inquiétez pas.
Pascal, alias DJ Pass, gérant du magasin Urban Music, c'est situé 30 rue Saint-Nicolas à Lille, dans la petite rue entre la Galerie Marchande et la FNAC près de la Grand Place. Urban Music qui participera au Disquaire Day ce samedi, et donc il y aura dans les boutiques qui participent à l'opération la mise en vente de disques, des vinyles des Black Keys, de Falls, de Le Scope, de Miles Davis, de Jimi Hendrix, de Metronomy, Notorious Big, Le Premier Milieu Sec ou encore David Bowie. Il y en a plein d'autres en édition plus ou moins limitée. Par exemple, le 45 tours de Napalm Death est à 100 exemplaires. Il y a aussi un Mylène Farmer, toujours très recherché apparemment, à 900 exemplaires. Parmi les boutiques qui participent au Disquaire Day à Lille, il y a aussi Minor Place, qui est plutôt rock, pop, électro, vraiment une boutique très sympa, rue du Plat. Et puis Besides Records, alors là c'est dans tous les styles avec pas mal de disques d'occasion, quasiment dans la même rue que Minor Place, dans le prolongement rue d'Amiens. Pour essayer de n'oublier personne, citons aussi Harmonia Mundi, Rock Mitten à Lille ou encore le Cafarnaum de Collector's Boutique à Mont-Saint-Barœul. Voilà de quoi faire pour celles et ceux qui aiment fouiner dans les rayons et les bacs à la recherche de perles rares ou simplement d'un bel objet ou d'un bon moment. Je signale aussi au passage que pour les fouineurs arrageois, Radio PFM organise chaque année en septembre la foire au disque et BD. Ça a lieu le dernier dimanche de septembre. Sachez aussi que le samedi 27 avril a lieu un petit peu plus loin à Aulnoy-Aymeries. Lâche pas la patate, c'est à la fois une foire au disque et puis des concerts rock'n'roll, rockab, etc. Mais on vous en reparlera très bientôt à cette antenne.